monde aujourd'hui. Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 11 septembre 2024. Donald Trump et Kamala Harris sont de retour en campagne après un débat acrimonieux.
Elle a bien parlé. Je crois que le monde entier a vu que notre première femme, Kamala Harris, comment elle a répondu. Vraiment, c'était fantastique.
Nous avons besoin de Donald Trump. Nous avons besoin d'un leadership fort. Nous avons besoin d'une économie forte. Nous avons besoin de fermer les frontières.
Retour sur ce débat dans un instant. L'Amérique commémore aujourd'hui les attentats du 11 septembre 2001. En RDC, 63 prisonniers présentés à un tribunal militaire ce mercredi après la tentative d'évasion. Au Kenya, le trafic aérien a été perturbé par une grève à l'aéroport de Nairobi. Ne manquez pas notre page sport. Pour l'instant, le journal. Élection présidentielle américaine, le candidat du parti républicain Donald Trump a croisé le fer avec sa rivale démocrate Kamala Harris hier soir sur des questions telles que l'avortement, l'immigration et la politique étrangère. Le correspondant national en chef de la VOA, Steve Herman, présente les détails de ce premier débat à Philadelphie dans l'état de Pennsylvanie. Le récit est de Chérubin Dorsil.
Debout à 2 mètres l'un de l'autre, dans une salle sans public, les deux candidats à la présidence, qui ne s'étaient jamais rencontrés, ont eu leur première rencontre organisée mardi soir par ABC News et retransmise sur d'autres chaînes de télévision à des dizaines de millions d'électeurs potentiels à travers les États-Unis. La vice-présidente Kamala Harris s'est adressée à ses électeurs tout en répondant aux attaques de l'ancien président Donald Trump et en traçant sa propre voie après le retrait du président Joe Biden de la course.
Il est clair que je ne suis pas Joe Biden et que je ne suis certainement pas Donald Trump, mais ce que je propose, c'est une nouvelle génération de dirigeants pour notre pays, une génération qui croit en ce qui est possible, quelqu'un qui apporte de l'optimisme à ce que nous pouvons faire, au lieu de toujours dénigrer le peuple américain.
Trump a accusé Harris, qu'il a qualifié de marxiste, d'être à l'origine de l'augmentation de l'immigration clandestine aux États-Unis.
Ils ont détruit le tissu de notre pays. Ils ont laissé entrer des millions de personnes.
Sans preuve, Donald Trump a également blâmé Kamala Harris pour l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la guerre à Gaza.
Elle déteste Israël. En même temps, à sa manière, elle déteste la population arabe parce que tout va exploser. Les Arabes, les Juifs, Israël. Israël aura disparu.
Israel will be gone.
Trump participait à son 7e débat présidentiel alors que Harris en était à son tout premier. Elle a déclaré que le candidat républicain n'était pas apte à retourner à la Maison-Blanche et qu'il y avait un consensus sur ce point parmi les dirigeants du monde, à l'exception des autocrates qu'elle a accusé Trump d'admirer.
Vous adorez les hommes forts au lieu de vous soucier de la démocratie.
Les représentants de Trump dans la salle de presse, comme le député républicain Byron Donalds de la Floride, ont estimé que Mme Harris n'avait pas réussi à articuler ce qu'elle ferait en tant que présidente.
Kamala Harris n'a fait que l'attaquer. Elle n'a pas parlé de sa politique. Elle n'a pas parlé de ce qui la différencie de l'administration Biden. Quand l'Afghanistan a été abordé, qu'a-t-elle dit? Rien du tout.
Près d'un tiers des électeurs interrogés avant le débat ont déclaré qu'ils connaissaient bien Donald Trump, mais qu'ils avaient besoin d'en savoir davantage sur Kamala Harris. Le débat a fait ressortir un contraste clair entre les deux, selon le député démocrate Ted Lieu de Californie.
Kamala Harris a été présidentielle. Donald Trump était bizarre et incohérent.
À moins que Donald Trump et Kamala Harris ne débattent de nouveau avant le jour de l'élection, il s'agissait peut-être de leur meilleure occasion d'influencer le nombre relativement faible d'électeurs indécis dans les 7 États qui devraient décider qui sera le prochain président des États-Unis.
Comment réagissent les deux camps au sein de la diaspora africaine? Eddie Sangwa a joint dans le New Hampshire la présidente de Congolese Africa for Harris, Marie-George Nganda.
Notre candidate démocrate a bien défendu, elle a bien parlé. Je crois que le monde entier a vu ce que notre petit président des États-Unis, première femme, Kamala Harris, comment elle a répondu. Vraiment, c'était fantastique.
Quels étaient les points forts de sa prestation hier devant Donald Trump?
Si je prends le point de quand on a posé des questions de parler à propos de l'économie, comment vous allez vous défendre? Bon, je crois que ça c'était comme une question. La façon que notre vice-président, futur président Kamala Harris a répondu, comment elle va faire dès qu'elle arrive au pouvoir, comment elle va s'occuper des enfants, comment elle va s'occuper quand même des femmes, de l'économie, surtout pour le problème des maisons. Elle a bien répondu, elle a bien fait aussi comme le détail, comme un leader qui connaît ce qu'elle fait comme travail. Mais je crois quand on a posé une question avec notre former président, il commençait à parler de Tchana, de quoi, qu'est-ce qu'elle a. Tout ça, ce n'est pas. Parce que pour un leader, tu dois répondre qu'est-ce que je veux faire prochainement. Qu'est-ce que je dois faire si je devais faire ceci.
Justement, c'est ça la question. Comment avez-vous jugé la prestation de l'adversaire de votre candidate, la vice-présidente Kamala Harris?
Pour moi, je peux dire Donald Trump, lui, il est toujours à côté. Il ne répond pas directement à la réponse. Il va prendre des choses qui sont à côté, qui n'étaient pas directes. Il n'y a rien de nous dire avec les tchanas de quoi dire ce que tu vas faire. On a besoin d'écouter les chasseurs.
Donald Trump s'est attaqué à Kamala Harris, la vice-présidente, notamment sur le point de la sécurité au niveau de la frontière. Elle a laissé libre accès aux migrants clandestins.
Quand il parle des immigrants clandestins, d'abord, c'est lui-même aussi qui était à la base de toutes ces choses-là, hein, pour mettre les gens à côté. C'est lui qui a commencé, c'est lui. Et Kamala Harris avait fait un effort pour qu'on puisse... qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'avait pas... Il avait refusé. Et après ça, maintenant, il ne pouvait pas donner des solutions. Comme il ne sait pas comment faire des solutions, maintenant, il commence à mettre sur les gens. Mais je sais que quand il parle des immigrants clandestins qui mangent les chiens, les chats, est-ce que ça, c'est vraiment la réponse pour un président, un leader? Parle de quelque chose que tu vois que qu'est-ce que je dois faire ou bien qu'est-ce qu'il faut faire au lieu de condamner toujours les gens et parler encore de critiquer. Ce sont les immigrants qui devaient ouvrir leur vie.
Marie-Georges Nganda, présidente du mouvement congolais Africa for Harris. Pour sa part, le militant républicain Junior Bonpetit se dit satisfait par la prestation de son candidat, l'ancien président Donald Trump. Voici sa réaction recueillie par Georges Léonard Sagno.
Oui, nous avons un sentiment très satisfait parce que le président Donald Trump a exposé Kamala Harris qui n'a aucune vision, qui n'a aucune, politique pour changer les choses. Elle a joué sur l'appel émotionnel. Elle a joué à l'attaque pour essayer d'énerver le président Donald Trump. Mais le président Trump a été au-dessus de ses attaques, qui a démontré que Kamala Harris a aucune vision pour l'alternance. Nous avons besoin de Donald Trump. Nous avons besoin d'un leadership fort. Nous avons besoin d'une économie forte, nous avons besoin de fermer les frontières parce qu'il y a eu plus de 11 millions d'immigrants illégaux dans ces pays et le président Trump a fait un bon boulot. Nous avons besoin du président Trump pour arrêter la guerre de l'Israël et Hamas, arrêter la guerre de l'Ukraine et la Russie. Nous avons besoin d'un président fort et respecté dans le monde. Donc c'est un sentiment de satisfaction et le public américain a vu comment les choix à faire entre le président Trump qui a une vision claire, qui a un record, et entre une dame qui est en train de balbutier et chercher toujours à jouer sur l'émotionnel.
Comment avez-vous trouvé particulièrement les deux candidats ce soir?
Donc relativement, le débat était respectueux, le débat était avait un niveau, sauf ces appels émotionnels que faisait Mme Harris pour essayer sur le sujet comme l'avortement et tout ça, pour toucher le corps sensible des femmes et tout ça, et chercher à déstabiliser les candidats Trump. Mais sinon, le niveau du débat des candidats, c'était un bon débat contradictoire. Et félicitations au président Trump d'avoir clarifié les choses et exposé Mme Harris.
Le républicain congolais Junior Bonpetit. L'autre événement dans l'actualité américaine, ce 11 septembre marque le 23e anniversaire des attentats terroristes de 2001. Près de 3000 personnes ont perdu la vie dans les attaques des tours jumelles à New York, au Pentagone près de Washington et à Shanksville en Pennsylvanie. Les détails sur cette journée de commémoration avec Dilly Dico.
Les proches des victimes des attentats du 11 septembre 2021 se sont réunis ce mercredi sur les trois sites des attaques terroristes. Ils ont déposé des fleurs et des gerbes en mémoire des personnes qui ont péri lorsque des djihadistes du groupe Al-Qaïda ont pris le contrôle d'avions commerciaux en les écrasant sur les tours du World Trade Center, une partie du Pentagone et une aire en Pennsylvanie. À New York, des cloches ont retenti dans la matinée au mémorial des attentats pour marquer le moment de l'impact des avions sur les tours. Ce moment tragique de l'histoire des États-Unis a modifié la politique étrangère et sécuritaire du pays qui s'est lancé dans la guerre contre le terrorisme. Ces événements ont profondément changé l'état d'esprit de nombreux Américains et le monde entier en proie à l'extrémisme. Aujourd'hui, 23 ans après, ce sont les nouvelles générations, des enfants et des adolescents nés après les attentats qui portent le flambeau et font le devoir de mémoire en lisant les noms de près de 3000 victimes. Cette année, Joe Biden, l'ancien président Trump, la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, ont également rendu hommage aux victimes du 11 septembre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les points saillants dans l'actualité africaine en République démocratique du Congo, 63 prisonniers accusés d'avoir commis des viols sur des détenus lors de la tentative d'évasion qui a fait plus de 130 morts début septembre dans la plus grande prison du pays, comparaissent ce mercredi devant un tribunal militaire. Ils sont accusés de destruction, incendie volontaire, acte de terrorisme et viol, a déclaré Maître Michel Mafta, un des avocats de la défense commis d'office. Le trafic aérien était perturbé aujourd'hui à l'aéroport international de Nairobi au Kenya par une grève des personnels contre le projet du gouvernement kenyan de confier au groupe indien Adani l'agrandissement du site en échange d'une exploitation de 30 ans. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Rouget, bonsoir à tous.
Fin hier des matchs de la deuxième journée des éliminatoires de la prochaine CAN Maroc 2025.
Oui, fortune diverse pour les uns et les autres après les deux premières journées. Entre autres résultats, carton plein pour la championne d'Afrique en titre, deux matchs, deux victoires pour la Côte d'Ivoire, vainqueur du Tchad 2-0 après avoir battu la Zambie sur le même score, deux victoires en deux sorties également pour la RDC, belle opération pour le Burkina Faso et le Sénégal qui ont remporté leur deuxième match après leur nul 1 but partout à Dakar. Le Bénin s'est ressaisi en battant la Libye 2-1, 0-0 entre le Zimbabwe et le Cameroun. La Guinée est tombée en Tanzanie 2-1. Le Gabon a dominé la République centrafricaine 2-0. Le Mali s'est imposé sur la plus petite des marques 1-0 devant l'Eswatini après avoir été accroché à domicile par le Mozambique. 0-0 entre le Nigeria et le Rwanda. Les troisième et quatrième journées vont se disputer en octobre prochain. Seuls les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.
Des nouvelles du mondial féminin des moins de 20 ans.
Quatre pays représentaient le continent dans cette compétition qui se joue en Colombie, le Maroc et le Ghana, tous deux éliminés, et le Nigeria et le Cameroun qualifiés pour les huitièmes de finale. Les Super Falcons nigérians affrontent le Japon demain jeudi, mais bien avant, ce soir à 21h30 temps universel, les Lions indomptables du Cameroun font face au Brésil.
Ici aux États-Unis, Mauricio Pochettino est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football.
L'annonce a été faite par la Fédération américaine de foot. Le technicien argentin, ex-entraîneur de Chelsea, remplace Greg Berhalter. Limogé en juillet, Mauricio Pochettino prend les commandes de Team USA, victime d'une piteuse élimination dès la phase de poule de la Copa América disputée à domicile après deux défaites face à l'Uruguay et le Panama et une victoire contre la Bolivie. La sélection américaine espère afficher un meilleur visage lors de la Coupe du Monde 2026 qu'elle organisera conjointement avec le Mexique et le Canada. Le chantier s'annonce donc immense pour le technicien argentin. Une certitude, il peut compter sur le soutien du coach par intérim, Mikey Varas.
Je pense que la communication avec Mauricio va commencer presque immédiatement et je suis disponible s'il a besoin de quelque chose. En tant que patron, c'est lui qui dirige et c'est de lui que nous recevrons les ordres. Quant à moi, nous verrons bien. Pour l'instant, je ne pense qu'à la façon dont nous jouons. J'essaie d'analyser le jeu et d'aider la Fédération américaine de football à aller de l'avant.
Mikey Varas, entraîneur intérimaire des États-Unis. Aucun détail sur la durée du contrat de Mauricio Pochettino n'a été donné. Il prendra ses fonctions pour les matchs amicaux contre le Panama le 12 octobre à Austin dans le Texas et contre le Mexique 3 jours plus tard. En compétition, il sera aux commandes lors du quart de finale aller-retour de la Ligue des Nations de la CONCACAF.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, une organisation des droits de l'homme a récemment lancé une application permettant de dénoncer des cas de corruption dans le pays. Une initiative saluée par les structures de lutte anticorruption de Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
C'est Stop, Corrupt Stop, autrement, est la nouvelle application de lutte contre la corruption au Burkina. L'application comporte 4 grandes articulations, des quiz, des podcasts, des vidéos et des documents divers. En plus du français, C-Stop est disponible en 3 langues locales, le Moré, le Djoula et le Fulfulde. Une organisation des droits de l'homme est à la base de la création de l'application.
C'est vrai, il y a des lois qui ont été votées. Un décret a été pris récemment pour permettre aux personnes de procéder à des dénonciations. Mais vous savez, en la matière, il n'est jamais trop de trouver encore un canal par lequel on peut sensibiliser davantage la population afin qu'ensemble, une fois qu'on est tous informés, chacun pourra y prendre garde et donc éviter donc de se lancer dans ce phénomène. Nous avons choisi donc de mettre en place une application dénommé C-Stop, qui permettra à tout citoyen d'aller sur cette application, à travers des jeux, découvrir les lois qui existent, les textes qui existent en matière de lutte anti-corruption, et donc d'aller jusqu'à pouvoir même dénicher les structures nationales qui sont habilitées à recevoir les plaintes, ainsi de suite.
Les organismes de lutte anti-corruption saluent le lancement de cette application.
C'est une belle initiative qui va certainement amener un plus à la lutte anti-corruption parce qu'elle diversifie donc, et cette plateforme diversifie les façons de faire, les façons de voir, tout en apportant du contenu scientifique, des connaissances sur la lutte anti-corruption que chacun peut transporter sur lui dans son petit portable et pouvoir faire référence à tout moment, même sur la voie publique. Quand on est confronté à un cas de corruption, on peut se référer à une loi sans avoir besoin d'aller au bureau ou bien d'aller consulter un spécialiste.
L'Organisation de défense des droits humains, initiatrice de C-Stop, a bénéficié du soutien du NDI, le National Democratic Institute, qui permet de suivre les politiques publiques en matière de lutte contre la corruption. Des cas de corruption sont fréquents au Burkina et des rapports du Réseau national de lutte anticorruption ont plusieurs fois accablé des personnalités et autres organisations. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En Afrique de l'Ouest et du Centre, plus de 14 000 écoles ont fermé en raison de la violence et de l'insécurité en juin 2024, affectant des centaines de milliers d'enfants. Cette crise particulièrement sévère dans les pays sahéliens comme le Burkina Faso et le Mali, ainsi qu'au Cameroun et en RDC, compromet gravement l'accès à l'éducation. Eric Manirakiza s'est entretenu avec Christelle Huré, responsable de l'unité plaidoyer, communication et médias au bureau Afrique de l'Ouest et du Centre du CNR, le Conseil norvégien pour les réfugiés.
Alors, principalement, on observe surtout 3 raisons pour lesquelles les écoles sont ciblées par les groupes armés. La première, c'est l'expansion du territoire. La deuxième, c'est le fait que les écoles représentent un symbole d'autorité et représentent les États. Et la troisième, qui est un peu plus rare, c'est le fait que l'éducation formelle aille à l'encontre de l'idéologie de certains groupes. Donc, au Sahel et notamment au Burkina Faso et au Mali, les fermetures d'écoles, elles sont en grande partie dues à l'extrême étatique qui occupe des territoires et du coup mène des attaques systématiques contre les infrastructures civiles, y compris les écoles. Après, ailleurs en Afrique centrale, notamment en RDC, c'est plutôt à cause des tensions intercommunautaires et la présence de groupes armés divers qui perturbent l'éducation avec des écoles qui sont même parfois utilisées à des fins militaires.
Quels impacts spécifiques cette crise éducative a-t-elle sur les enfants dans des zones touchées ?
Alors les conséquences, elles sont dévastatrices. Hein. Non seulement les enfants sont privés de leur droit à l'éducation, bien sûr, mais ils sont également exposés à de nombreux risques en termes de protection. On observe un risque accru en termes de recrutement forcé par les groupes armés, d'exploitation sexuelle, de travail des enfants et d'autres formes de violence. Les filles sont particulièrement vulnérables face aux fermetures d'écoles. Lorsqu'une école ferme, les filles vont être davantage exposées aux risques en termes de violences sexuelles, mais il y a aussi des risques de mariage forcé et d'exploitation. Souvent, le fait d'aller à l'école pour ces filles représente la meilleure protection contre ces risques. Après, bien entendu, sur le long terme, le fait que des millions d'enfants ne puissent pas avoir accès à l'éducation, ça vient compromettre l'avenir de toute une génération, ce qui va avoir des répercussions socio-économiques majeures pour les communautés. Et enfin, beaucoup de ces enfants qui ne vont plus à l'école ont aussi été traumatisés par ce qu'ils ont vécu et par les attaques contre les écoles. Et donc, pour pouvoir recommencer à apprendre, il doit y avoir un accompagnement psychologique fort.
Quelles sont les recommandations du Conseil norvégien pour les réfugiés, pour les autorités locales et les organisations internationales, afin d'améliorer l'accès à l'éducation malgré cette insécurité croissante?
Alors, le Conseil norvégien pour les réfugiés, aux côtés d'autres organisations actives dans le domaine de l'éducation, appelle d'abord toutes les parties au conflit à cesser immédiatement les attaques contre les écoles, à respecter le caractère neutre des écoles, notamment en mettant fin à l'occupation militaire. Et on appelle également la communauté internationale à faire respecter le droit international humanitaire en la matière qui protège les écoles. Ensuite, il y a besoin, bien entendu, de plus de financement de la part des bailleurs, mais aussi de la part des gouvernements de la région pour financer les programmes d'éducation dans les zones particulièrement touchées par les conflits, aussi pour financer l'éducation à distance si les écoles ne peuvent pas réouvrir, pour financer la réintégration des enfants et notamment avec tout un accompagnement psychosocial pour leur apprendre à surmonter leur traumatisme et être à nouveau capables d'apprendre.
Christelle Huret, responsable de l'unité plaidoyer, communication et médias au bureau Afrique de l'Ouest et du centre du CNR, le conseiller norvégien pour les réfugiés. Dans un contexte de tension régionale, Djibouti a proposé de co-gérer un port stratégique avec l'Éthiopie, dont l'accès à la mer reste une source de conflit avec la Somalie. Paul Simon Andy, directeur de l'ISS, nous éclaire sur les enjeux et les solutions possibles pour apaiser ces tensions. Il répond aux questions d'Eric Manirakiza.
Il faut distinguer deux choses. L'Éthiopie est jusqu'à présent très dépendante de Djibouti pour son accès à la mer. Les importations de l'Éthiopie passent presque à 85% par Djibouti, par le port de la capitale. Ça crée une situation de dépendance qui est insoutenable sur le long terme. Donc l'Éthiopie a donc un souci qui est justifié de diversification de ses accès à la mer. Mais le deuxième point, qui je crois est un grand point de désaccord entre les différents pays de la Corne, est que le mémorandum d'entente entre l'Éthiopie et la République non reconnue de Somaliland prévoyait aussi la cession d'une partie du territoire du Somaliland pour une base navale éthiopienne, dont littéralement un bout de terre de Somalie qui devait obtenir la souveraineté éthiopienne, ce qui a causé l'ire de l'Éthiopie, et puis il y a eu toute une escalade avec l'implication de l'Égypte et tout un ensemble d'initiatives qui ont plutôt eu tendance à aggraver la situation qu'autre chose.
L'Éthiopie, dans sa quête d'accès à la mer, notamment à travers l'accord controversé avec le Somaliland, il s'agit d'un intérêt militaire, n'est-ce pas? Quel impact cela pourrait-il avoir sur les relations éthiopiennes avec ses voisins, en particulier Djibouti et la Somalie?
Il y a une ambition que le Premier ministre a toujours eue de remettre sur pied la marine éthiopienne qui avait été démantelée après la séparation avec l'Érythrée. Parce que lorsque l'Érythrée a eu son indépendance, c'est tout le versant côtier de l'Éthiopie qui disparaissait. L'Éthiopie se retrouvait du jour au lendemain être un pays enclavé. Mais pour qu'une marine vive,
il faut qu'elle ait un accès à la mer, il faut qu'elle puisse avoir des bateaux, il faut qu'elle puisse circuler et assurer la protection des côtes qui, en général, sont les siennes. Donc, ceci pose un gros problème à l'ensemble des pays de la région pour trouver un compromis qui allie à la fois les intérêts éthiopiens et les intérêts des autres pays de la région.
Quelles solutions potentielles pourraient donc émerger pour résoudre les tensions autour de l'accès maritime de l'Éthiopie?
C'est pour ça que la proposition djiboutienne est originale, parce qu'elle permet de résoudre le problème commercial, économique éthiopien, d'accès, de diversification de sources d'approvisionnement par la côte. Elle adresse aussi la question de la co-souveraineté ou de la souveraineté partagée, mais elle met en veilleuse la question d'une base militaire. Donc, dans l'immédiat, une solution de court et de moyen terme serait pour l'Éthiopie de renoncer pour le moment à ses ambitions. En quoi il est justifié de soutenir les ambitions sécessionnistes du Somaliland dans une région qui a déjà connu des successions, notamment l'Érythrée et le Soudan du Sud, qui ne peuvent pas être considérées comme de grandes réussites?
Paul Simon Andy, directeur de l'Institut d'études de sécurité, joint à Johannesburg.
Alexandrine Rolonio avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, Kamala Harris et Donald Trump, face au public dans un débat télévisé, confrontent cette semaine leur vision sur l'avenir des États-Unis. Le lieu du débat, Philadelphie en Pennsylvanie dans l'Est des États-Unis. Cet État est largement considéré comme le plus important des États pivots. Ces États qui pourraient basculer démocrates comme républicains en novembre. Selon vous, quel peut être l'impact de ce débat dans la présidentielle? Quel type de leadership attendez-vous du prochain président américain? Et pourquoi cela vous importe-t-il? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel dans Washington Forum, sur VOA Afrique et voaafrique.com pour une analyse de ce débat présidentiel.
Les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions contre l'Iran mardi en raison de la fourniture par Téhéran de missiles à la Russie dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. De Londres, Harry Riguel en parle dans ce reportage relaté par Jeanine Niwa.
L'Iran fournit depuis longtemps à la Russie des drones qui ont dévasté les villes ukrainiennes. Lors d'une rencontre avec le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, mardi à Londres, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a confirmé que Téhéran avait commencé à fournir des missiles balistiques à Moscou.
Cette évolution et la coopération croissante entre la Russie et l'Iran menacent la sécurité européenne et démontrent que l'influence déstabilisatrice de l'Iran s'étend bien au-delà du Moyen-Orient. Pour sa part, la Russie partage les technologies recherchées par l'Iran. Il s'agit d'une voie à double sens, y compris en ce qui concerne les questions nucléaires ainsi que certaines informations spatiales.
Anthony Blinken a annoncé de nouvelles mesures contre Téhéran.
Les États-Unis annonceront de nouvelles sanctions contre l'Iran plus tard dans la journée, y compris des mesures supplémentaires contre Iran Air.
En plus d'Iran Air, les États-Unis sanctionnent des individus, des entreprises et des navires impliqués dans le transfert d'armes iraniennes vers la Russie. Le Kremlin a confirmé que Téhéran coopérait avec Moscou dans des domaines très sensibles, sans identifier spécifiquement des armes particulières. Dimitri Peskov est le porte-parole du Kremlin.
L'Iran est un partenaire important. Nous développons notre coopération et notre dialogue dans tous les domaines possibles, y compris les plus sensibles.
Blinken et Lammy ont déclaré qu'il s'agissait d'un moment critique pour soutenir l'Ukraine. Les deux hommes se sont rendus ensemble à Kiev mercredi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky fera probablement pression sur les alliés occidentaux pour qu'ils autorisent l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée sur des cibles à l'intérieur de la Russie, déclare l'analyste Gareth Martin.
En général, le Royaume-Uni a souvent été plus à l'avant-garde, peut-être plus à l'avant-garde du soutien à l'Ukraine. La question est donc de savoir, surtout si l'on pense au débat sur les frappes à longue portée, s'ils sont en mesure d'adopter une position similaire.
Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, doit rendre visite au président américain Joe Biden à Washington vendredi. L'Ukraine et le Moyen-Orient seront à l'ordre du jour.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.